Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, bon vendredi. Ici Julie Châtelain, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une autre belle émission de Mission Vision sur Canal M. Et aujourd'hui, je vais recevoir deux femmes vraiment extraordinaires. Une qui va venir témoigner d'une expérience personnelle qu'elle a vécue en lien avec une amputation d'un œil. Et la deuxième qu'on va recevoir dans la deuxième partie d'émission, elle, c'est incroyable, elle s'implique avec différents projets créatifs en lien avec l'handicap visuel, mais elle n'en a pas. Mais moi, je suis curieuse de savoir d'où vient cette sensibilisation-là qu'elle a naturelle pour les personnes qui ont finalement une dégénérescence visuelle. On va pouvoir en parler avec elle, ça va être vraiment intéressant. Mais là, tout de suite, je vais accueillir Stéphanie Morin-Robert. Et vous allez voir, ça va être une discussion, hein, avec deux femmes qui ont vécu pas la même chose, mais qui se ressemblent parce qu'on se retrouve qu'on a un œil en moins, hein, une prothèse oculaire qui amène toutes sortes de défis, d'enjeux. Et elle a décidé de prendre son histoire et d'en faire un projet créatif, une pièce de théâtre Angle mort. Mais je veux surtout parler à la femme qui est derrière le projet. Bonjour Stéphanie.
Allô.
Comment vas-tu?
Ça va bien, merci. Contente d'être là.
Ben là, moi, je suis vraiment contente parce que c'est quand même assez rare qu'on entend des gens parler de leur expérience d'avoir perdu un œil. Moi, je le fais régulièrement, là, dans le sens que depuis que ça m'est arrivé, j'en parle. Mais c'est là que je me suis rendu compte que on n'en parle pas, pas tant que ça, et je trouve encore moins pour une femme. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu ce projet-là, je me suis dit « Ah, wow, quelle belle initiative! » Donc, Angle mort, finalement, c'est une pièce de théâtre où est-ce que tu t'es inspirée de ton histoire? Donc, c'est un peu, on pourrait dire, c'est autobiographique?
Oui, oui, ça parle vraiment de mon expérience. Puis honnêtement, moi, dès que j'ai eu l'opportunité de passer en entrevue avec quelqu'un qui porte aussi une prothèse oculaire, je suis devenue petite fille, là. J'ai fait « Oh my God, faut que je la rencontre, puis j'ai trop hâte. » Puis en tout cas, donc, merci beaucoup, je suis contente de te parler. Puis oui, la pièce parle de moi, petite fille, qui apprend un peu comment vivre avec ça, parce que je dois avouer, puis je sais pas comment ça a été pour toi, mais pendant longtemps, tu sais, j'en avais honte, puis je voulais pas que les gens ils soient au courant. Puis ça venait un peu de, malheureusement, la façon que je pense ma mère s'est prise avec tout ça. C'est assez dark un peu, mais quand même, je trouve ça important comme anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'étais à Canada's Wonderland à Toronto. Mm-hmm. Puis il y avait du monde qui dessinait des caricatures. Tu sais, tu peux payer 20$ puis avoir ta famille en caricature. Et j'ai entendu ma mère demander à la personne qui faisait le dessin de faire en sorte que mes yeux aient l'air normal. Que ça ait l'air comme si j'avais pas de prothèse, que j'avais pas un œil croche, whatever. Oui. Puis je m'en souviens d'avoir fait semblant de ne pas l'avoir entendu, à quel point ça m'avait comme fait de quoi. Ça m'avait donné un peu l'impression que, OK, je dois vivre ma vie comme ça. Je dois comme un peu faire semblant que ça n'existe pas. Je dois le cacher. Je dois. Puis ça, c'est une mémoire de. Je pense que j'avais peut-être 6 ans. Donc, voilà. Tout a changé depuis ça.
Ben, c'est parce que...
C'est plus gêné, mais...
Mais c'est parce qu'en fait, si on remonte, parce que toi, dans le fond, c'est arrivé, t'étais toute petite, hein, c'est une tumeur à la rétine. Et suite à ça, dans le fond, on a complètement retiré ton œil, mais à cause de toutes les cellules et tout ça. Mais t'avais quoi, je pense, 2 ans?
Oui, exact. Oui, c'était un rétinoblastome, qui est un cancer assez rare chez les enfants qui attaque vraiment la rétine de l'œil. J'ai été chanceuse que c'était juste du côté gauche.
Oui.
Puis voilà, jamais que j'aurais cru que j'allais créer ou même m'inspirer de tout ça pour m'en fonder une carrière, mais voilà, d'où vient le concept d'angle mort, le spectacle que je tourne présentement.
Mais c'est ça, c'est parce que comme c'est arrivé quand tu étais toute petite, la différence avec moi, c'est que ben moi j'étais pas toute petite, moi j'étais adulte. Donc mais j'ai vécu ça d'une façon qui ressemble aussi à la tienne. Mais toi, la différence, c'est que tu étais toute petite, 2 ans. C'est pas toi qui as décidé de la suite, là, dans le sens que c'est maman qui a pris en charge le fait que tu allais avoir une prothèse et tout ça, là, toutes ces étapes-là. C'est pas toi qui les a absorbées. C'est ta maman. Fait que c'est sûr qu'elle aussi, à travers ça, elle a vécu plein d'émotions. De dire oui. « Oh mon Dieu, ma fille, tu sais, je veux pas qu'elle souffre, je veux qu'elle aille là le plus normal possible. » Fait qu'il y a comme, tout ça aussi qu'on entend quand elle est en train de dire « Oh, s'il vous plaît, faites que ça paraisse pas trop. »
Oui, c'est en fait, puis j'en parle dans le spectacle, c'est qu'il y a comme souvent on cache des choses pour essayer de protéger les autres.
Oui.
Puis en fin de compte, plus tard dans ma vie, je me suis rendu compte que ça finalement ça le nuit, tu sais, ça m'a pas protégée, mais ça m'a donné l'impression que j'étais pas comme assez, j'étais pas, que j'avais pas voilà, donc ça a été quand même toute une aventure pour me rendre à un point dans ma vie où que je pouvais comme retrouver cette confiance-là parce que je l'avais quand même quand j'étais plus petite.
Oui.
Je pense que j'ai appris par la réaction des gens autour de moi comment réagir avec tout ça et comment naviguer ma vie. Mais je pense pas, juste mon approche artistique dans la vie, c'est vraiment de comme désapprendre tout ce que j'ai appris dans ma vie pour revenir quasiment à un état d'enfant curieuse qui découvre tout, créative, tu sais, donc dans mes études puis tout ça, que ça soit en danse ou en clown ou en théâtre ou peu importe, c'est vraiment ça la création, c'est de revenir vers soi et de s'accepter pleinement, d'essayer d'enlever les filtres, ce qui est très difficile quand on habite dans une société où les handicaps sont comme encore tabous, tu sais.
Oui, ben, mais justement, c'est ça, c'est de revenir à finalement, je vais dire, comme tu dis, l'enfant curieux, l'enfant qui est pur, qui n'a pas été atteint par la société, hein, finalement, les commentaires, le regard des autres. Mais toi, c'est à quel moment? Parce que là, comme c'est arrivé, tu étais toute petite, toi, tu as été confrontée à ça depuis toute jeune, donc même à l'école. Comment ça s'est passé pour toi, tout ton parcours scolaire au niveau des amitiés? Au niveau même de toute l'adolescence, les balbutiements avec les garçons.
ça a été difficile, rendu, je te dirais, à la troisième année.
OK.
La troisième année, c'est vraiment ce moment-là où j'ai commencé à me rendre compte que, OK, c'est pas correct d'être différente. Puis je vais me faire, tu sais, il y a eu du bullying, il y a eu quand même de l'intimidation envers tout ça. Oui. Mais avant ça, je trouvais vraiment que j'étais un peu comme clueless. Je savais pas vraiment qu'il y avait un problème avec ça avant. Mais maintenant, quand j'ai vu le regard des autres puis que j'étais plus au courant du monde autour de moi, puis je regardais aux autres pour justement voir si qu'est-ce que je devrais porter, comment je devrais mettre mes cheveux, comment, tu sais, tout ça, ça l'a vraiment changé, puis ça a été plus difficile pendant ce bout-là. Mais c'est drôle parce que quand je fais des spectacles scolaires, souvent, une des questions que je reçois, c'est ton mari, comment tu lui as dit que tu avais une prothèse, comment tu as abordé ça? Puis je trouve ça drôle parce que c'est comme si eux, ils pensaient que j'étais en relation ou en couple.
Ah oui, OK.
Puis qu'ils ne savaient pas, tu sais.
Ouais.
Donc, j'adore répondre à cette question-là parce que finalement, moi, mon chum, il m'a demandé en date après avoir vu mon spectacle. Oh. Et pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas un peu ce que je fais sur scène, c'est que le spectacle, j'enlève la prothèse au point de le remettre à un membre du public. Je fais des marionnettes avec les prothèses. Je fais chanter mon trou d'œil. T'sais, ça va quand même loin. Ça pousse vraiment le niveau du confort du public. Donc, c'est le fun, justement, de pouvoir montrer aux ados, hey, non, c'est possible d'être aimé. C'est possible d'être en relation, d'avoir une famille, d'avoir des enfants, que ce soit avec un homme ou une femme.
Ouais.
C'est possible de vivre tout ça et avoir une différence comme ça ou un handicap. Puis, c'est pour ça que ça m'inspire vraiment de pouvoir faire autant des spectacles grand public que le scolaire, parce que c'est un message important, puis je pense que ça m'aurait vraiment fait du bien voir quelque chose comme ça quand j'étais plus jeune. Tu sais, m'aurait sauvé un peu de temps, je pense.
Oui, absolument. Et je trouve ça tellement intéressant, Stéphanie, quand tu parles de ce que tu fais finalement avec, avec ta prothèse, c'est tout ce côté-là où est-ce qu'on amène de l'humour à travers ça. Et moi, dans le fond, dans ma transition, hein, parce que entre se faire enlever un œil, moi, c'est arrivé après plusieurs opérations où est-ce que finalement, ben OK, on doit retirer l'œil, il est mort, là, tout simplement. Et ensuite, je me suis retrouvée à être confrontée à moi-même de me voir avec un trou. Hein? C'est un peu ça.
Ouais,
et j'ai dû apprivoiser ma cavité. Tu sais, au début, je savais pas comment l'appeler. Je savais pas... tu sais, je disais mon pu d'œil, ma cavité, mon trou. Tu sais, comment j'appelle ça? J'en ai plus d'œil, tu sais? Fait que c'est comme si j'étais confrontée moi-même à constamment des sensations physiques. C'est vraiment spécial. C'est comme si je ressentais des sensations physiques que dans... Parce que là, c'était comme... C'est un trou, c'est un espace vide. Comme si finalement, j'avais des sensations un peu étranges de même... Tu sais, je pourrais mettre quelque chose dedans. Tu sais, je pourrais cacher une petite roche dedans. Tu sais, on dirait que j'avais cette réflexion-là qui me traumatisait moi-même. Parce que je me disais, wesh, que je pense à ça. Mais ça me revenait quand même parce que j'avais la sensation physique d'un espace qui était comme une petite grotte. Tu sais, je me disais, qu'est-ce que c'est? Arc! Et dans mon processus, moi, j'ai vraiment eu besoin d'être un certain nombre de temps, je vais dire presque 2 ans, avec pas de prothèse. J'ai dû apprendre à apprivoiser le fait que j'avais plus d'œil, tu sais, que c'était rose, qu'il n'y avait plus rien. Et tranquillement, je me rappelle la première fois, parce que moi aussi, je faisais ça, tu sais, puis là, je faisais une vidéo et tout ça, et j'ai vu, tu sais, les gens faire « Wow, OK, là, elle s'assume, il lui manque un œil. » Et ça m'a tellement fait du bien pour moi, là. Et là, on dirait que tranquillement, j'ai apprivoisé ça jusqu'à temps de me dire, un matin, je me suis levée, je me suis dit, OK, je suis prête à avoir une prothèse, mais par contre, elle va être une couleur différente.
Mm-hmm.
Parce que là, je voulais l'honorer. Je voulais que ça paraisse.
Ouais.
Mais il y a vraiment eu tout... Alors moi, maintenant, je suis capable de penser à ce que tu dis, là, de faire une marionnette, de faire ci, de faire ça avec. Mais au début, ça me terrifiait. Parce qu'on dirait qu'il y avait comme vraiment une sensation physique. Je sais pas, toi, parce que tu étais toute petite.
Oui, j'étais vraiment toute petite. Puis rendue là, j'en avais peur. Puis il fallait même que mes parents, ils me donnent des petits cadeaux pour pouvoir le toucher, le nettoyer, l'entretenir.
Ah oui, hein?
J'avais peur qu'il me touche au visage. Donc ça a été assez traumatique, mais tranquillement, je me suis... T'sais, je me suis rendue de plus en plus confortable avec ça. Puis c'était vraiment plus tard dans ma vie où j'ai voulu commencer à trouver des moyens pour un peu faire une carrière de tout ça. Mais en même temps, pas vraiment, parce que quand j'étais plus jeune, même à l'école primaire, t'sais, je l'enlevais pour de l'argent derrière l'école. Donc...
Tu l'enlevais pour de l'argent? Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Que les gens te disaient, s'il te plaît, tu peux t'enlever ta prothèse, c'est cool. Puis là, tu dis, OK, je l'enlève 2 $. C'est-tu quelque chose
d'avant?
Exact. Oh, wow! Exact.
Donc, je leur demandais de se mettre en ligne derrière l'école, la récréation.
Wow.
Je leur montrais mon trou d'œil pour 2 $ chaque.
Ben non, mais en fait, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que les gens, il y a comme un mélange entre je pourrais dire un dégoût, une peur, puis en même temps, il y a vraiment une curiosité. Parce que moi, je me rappelle au début, j'ai même, parce que vu que moi aussi, c'est le côté gauche, ce qui veut dire que tu me regardes d'un côté, ben, il me manque un œil, l'autre côté, ben, il n'y a rien changé. Et j'avais même des amis qui me disaient, oh mon Dieu, Julie, c'est comme si ton côté gauche me fait peur. Parce que c'était associé à, tu sais, finalement, le traumatisme physique, tu sais, d'avoir retiré l'œil. Et on s'entend, là, quand on parle de ça aux gens, tu sais, on le voit même dans les films, là, quand ils veulent nous faire, tu sais, nous amener ce sentiment-là ou même de se boucher les yeux, là, ben c'est tout le temps quand ils attaquent les yeux, là. Je veux dire, personne qui fait comme, oh, hey, il va y mettre un couteau dans l'œil. Bon, il n'y a rien là. Non, au contraire, les gens là, se mettent à, oh non, je veux pas voir ça. Il y a vraiment quelque chose d'associé aux yeux.
Oui. Il y a des gens même qui ont des phobies de tout ça. C'est vraiment sensible. Donc, j'ai rencontré ces gens-là.
Oui, hein, c'est ça.
Dans mes 10 ans de tournée, 1000 représentations, j'en ai eu. Peut-être dans tout ça, il y en a 3 qui se sont évanouis.
Mais je comprends.
On appelle l'ambulance, je fais pause pour le spectacle.
Ah oui, hein?
On s'assure qu'ils vont bien, ils sont sortis, tout va bien, puis le spectacle continue. Mais souvent, je demande aux gens, est-ce qu'on continue? Est-ce que vous avez besoin d'une pause?
Oui.
Puis souvent, ils encouragent, ils applaudissent, puis ils ont envie, parce que le sujet est quand même abordé avec comme c'est inconfortable, mais il faut se permettre à vivre cet inconfort-là pour justement pouvoir passer à d'autres choses, pour pouvoir être confortable avec le contenu.
Oui.
C'est vraiment ça, l'arche et ce qu'on vit pendant le spectacle Angle mort. Et c'est le fun parce que les gens oublient que je ne porte plus. Les gens, ils oublient qu'ils sont en train de tenir ma prothèse littéralement dans leurs mains.
Oui, oui.
Donc, mais je trouve que c'est tellement important. Puis en tant que maman, tu sais, je le vois avec mes enfants, c'est important qu'ils soient ouvertes et curieux de pouvoir vivre un inconfort, peu importe c'est quoi, que ce soit en patin pour la première fois, leur première pratique de hockey ou de peu importe, première journée d'école, si on se dit, ah, je suis inconfortable avec ça, ça me donne mal au ventre, on finit par rien faire, puis aussi on finit par rien apprendre de ce qui est différent de nous. Donc, c'est vraiment le fun, puis de pouvoir vraiment jouer avec ça, puis un peu tenir le public par la main pour dire, OK. Là, c'est intense, mais ça va être correct.
Oui.
Parce que moi, ça va.
C'est ça.
Puis c'est cette confiance en moi qui fait en sorte qu'eux sont mieux là-dedans, puis qu'ils sont plus à l'aise, qu'ils sont justement capables d'embarquer.
Ah oui, absolument. Et c'est à quel moment que là, tu t'es dit, ah là, j'ai envie de faire un projet créatif, là, entre la jeune fille qui vit elle-même, tu sais, ses propres inconforts. Mais c'est à quel moment c'est arrivé de dire, OK, là, je suis prête, je me lance sur scène et je me montre telle que je suis?
Oui, il y a eu quelques moments dans ma vie, mais vraiment pour arriver à comme me dire, OK, je veux écrire une pièce de théâtre et faire ta tournée. Ça, c'était à Montréal, dans un open mic pour le Festival Fringe. C'est pour un événement qui s'appelait Confabulation. C'est vraiment un partage de récits. C'est pas nécessairement du monde qui gagne leur vie par les ordres de la scène. C'est vraiment comme n'importe qui pouvait s'inscrire puis partager une histoire intime sur scène. Puis voilà, j'ai partagé une histoire de moi qui va dans un camp de vacances. Je rencontre quelqu'un qui m'invite pour une rencontre derrière les toilettes la nuit pendant que tout le monde dort.
Oh.
Puis là, c'était un gars qui s'appelle Andrew. Il m'avait écrit ça dans une lettre. Puis en lisant la lettre, je me suis dit, ah, je vais me faire embrasser.
Oui.
Je pensais que ça allait être mon premier baiser.
Oui.
Et finalement, en arrivant là-bas, tu sais, je me posais plein de questions parce que je me disais, ah, s'il se rend compte pour mon œil, est-ce qu'il va quand même vouloir m'embrasser?
Oui. Et
je me posais vraiment cette question-là. Puis j'étais toute petite, j'avais 8 ans. Puis en arrivant, derrière les toilettes, il est là, il m'attend. Puis finalement, il m'embrasse pas, mais il enlève sa prothèse oculaire.
Il y en a... Oh, il y en avait un aussi!
Pour me montrer qu'il y en avait un,
oh, c'est
aussi.
Beau.
Puis moi, je l'avais pas vu parce qu'il est rendu là dans ma vie, je regardais personne dans les yeux.
Mm.
Puis ça aussi, c'est une belle découverte parce que je me suis rendu compte que tu regardes pas aux gens. Tu manques tellement de pouvoir apprendre sur eux. Puis
oui.
Au point que je ne me suis même pas rendu compte qu'il y avait une prothèse. Maintenant, tout de suite, je me rends compte si quelqu'un a une prothèse.
Oui.
Puis je suis comme, hey, toi aussi, oh my God.
Oui.
Mais en tout cas, il enlève sa prothèse. Ça a été un moment assez riche pour moi. Parce que voilà où est sortie ma première ever performance avec mon œil dans le concours de talent au
oui.
camp de vacances avec Andrew, où on a enlevé
chacun.
Notre prothèse devant tout le monde.
Wow.
Puis tout le monde applaudit et crie, puis ils sont dégoûtés, mais ils sont aussi curieux. Puis sont, c'est un mélange d'émotions.
Oui. Oui.
Puis je suis tellement heureuse de pouvoir revivre ça quand je fais du scolaire, là, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas de filtre, les ados. Hein.
Oui.
Donc, s'ils trouvent ça dégueulasse, ils vont te le dire, mais je dois avouer qu'il y a tellement une belle ouverture d'esprit, puis la nouvelle génération, je trouve, justement, il y a comme une acceptation
oui.
qui n'existait pas
oui.
quand j'avais leur âge.
Mmh.
Donc, c'est cool.
Mais tu vois, ça, c'est vraiment intéressant aussi quand tu parles de la génération les plus jeunes, parce que moi, quand je me suis fait opérer, c'était dans la période... tu sais, dans le fond, j'ai commencé à être opérée au mois d'avril en 2019, c'est ça. Et je me suis fait enlever mon œil le 18 mars 2020, en début de pandémie. Donc, je me suis retrouvée à avoir cette opération dans cette période-là, là, de un an et demi. Donc, ça fait que... j'ai eu deux autres opérations après parce qu'ils ont essayé de remplir ma cavité là, parce qu'elle était comme trop profonde. Fait qu'en tout cas, j'ai eu deux autres après, mais c'est ça. Fait que j'en avais eu 5 opérations. J'avais eu beaucoup de convalescence. Et quand il y a eu la pandémie, je me suis retrouvée à être dans une zone où est-ce que, tu peux aller, tu sais, exemple, chez ta mère, mais tel nombre de temps. Et ensuite, si je devais aller ailleurs pour X raisons, je devais aller faire un autre stretch de temps à cause de, les conditions sanitaires. Et je me suis retrouvée à aller chez ma sœur qui a 4 enfants et que dans le fond, c'est ma sœur et son chum qui ont dû me faire les soins, là, t'sais, parce qu'à ce moment-là, j'ai encore des onguents et tout ça au niveau de la cavité.
Ouais.
Je ne suis pas en mesure de le faire moi-même. Je viens de me faire opérer de toute façon. Et les enfants, les 4 enfants de ma sœur, ils ont une désensibilisation, pas dans le sens qu'ils sont pas sensibles, mais je veux dire, ils sont sensibilisés, mais ils ont une désensibilisation, ce qui veut dire qu'ils sont pas comme « Arc, oh mon Dieu, c'est épouvantable! » Au contraire, c'est comme tout à fait normal versus
ouais.
les enfants de mon frère, que eux ils n'ont pas été témoins, ils n'ont pas eu accès à rien de ça. Et tout ce qui est en lien avec la prothèse, Julie qui a un handicap, urk, là, t'sais, on n'est vraiment pas à la même place. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant de dire que toi, chaque jeune que tu vas aller toucher dans les écoles, ben c'est comme si finalement, naturellement, tu leur amènes cette sensibilisation-là. Et je trouve qu'ils sont super réceptifs. Puis c'est à nous de faire ça aussi, parce que si on le fait pas, on n'ira pas chercher ça en eux. Donc, je trouve que ton message, il est tellement important, puis c'est parce que moi, je trouve, en plus, c'est tout le côté du regard de l'autre. Hein? On est dans une ère, en plus, des réseaux sociaux, de quoi t'as l'air, tu sais, tout ça. Et quand c'est une prothèse, au niveau du visage, tu peux pas le cacher, c'est ton visage. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose d'encore plus intense de devoir reprendre contact avec ton propre visage. Je sais pas toi s'il y a eu ça aussi, mais moi, ça a été super important à un moment donné moi, en fait, c'est parce que vu que c'est dégénératif, c'est un handicap visuel, ce qui fait que j'ai aussi, je veux dire, cet avantage-là que moi, je peux pas le savoir si l'autre a une prothèse, s'il me le dit pas, s'il l'enlève pas, parce que je le verrai pas. Mais ça reste que moi, tout mon rapport à la beauté a complètement changé. Donc, je sais pas, tu sais, toi, si tu amènes ça aussi, parce que c'est sûr que si tout d'un coup, tu enlèves ta prothèse, ben là, on te voit et il te manque un œil. Donc, tout ça aussi, tu sais, ce que ça peut amener au niveau de la beauté.
Mais vraiment, puis je continue à vivre ça. Tu sais, dès que souvent, je dis, ah, mais je suis pas mal confortable avec ça, puis je montre à quel point que j'ai une confiance, tu sais, sur scène et aussi dans ma vie personnelle,
oui.
Mais je vis ça présentement encore. Tu sais, j'ai des insécurités qui ressortent.
Oui.
Parce que là, je me lance. J'ai été approchée pour faire une audition pour être dans une télésérie. Puis tout ce qui est cinéma, moi, j'aime beaucoup ce qui est hors vivant. J'aime être sur scène, j'aime le rapport avec le public. Puis je dois avouer que tout ce qui est comme film, cinéma, j'ai même pas osé parce que j'imaginais que d'être devant caméra, c'était pas vraiment pour moi. Je voulais pas ma place là-dedans.
Ouais.
Je trouve tellement comme moi, j'écoute les films, toute l'émotion, puis l'intensité, puis le focus se trouve dans les yeux.
Mm-hmm.
Puis donc, je me suis vraiment créée comme une idée par rapport à ça pour me dire que je me vois pas là-dedans, puis j'en ferai jamais, puis that's it. Puis je pense à d'autres choses. Mm-hmm. J'ai une carrière en théâtre, humour. Puis Mais voilà, quelqu'un vient me voir parce qu'ils m'ont vu en spectacle. Puis, tu sais, on veut que tu passes en audition pour un télésérie.
Oui.
Puis j'ai fait, OK, Puis toutes les insécurités qui remontent, toutes les insécurités que j'avais un peu oubliées, que j'ai travaillées, j'ai guéri, mais les revoilà sur la surface. Puis je me suis vraiment dit, OK, soit que je dis oui ou non, c'est aussi simple que ça.
Oui.
J'ai rappelé une demi-heure avant l'audition.
OK.
J'étais quasiment en larmes, puis j'ai dit, mais est-ce que le réalisateur puis les gens qui vont être là à l'audition...
Stéphanie, je vais devoir te couper, mais c'est tellement intéressant ce que tu racontes. Est-ce que c'est une série québécoise ou canadienne?
C'est une collaboration entre le Manitoba et le Québec.
OK.
Pour Radio-Canada.
Oh, wow, génial. Stéphanie, merci infiniment. Et on va sur ton site Internet Angle Mort et tu te promènes un peu partout. Merci infiniment d'être venue. J'ai dû te couper sec, mais on aurait pu continuer des heures et des heures. Merci beaucoup, Stéphanie. À une prochaine discussion.
OK, merci.
Merci. À tout de suite. Sarah Séné qui s'en vient.
Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Maintenant, j'accueille Sarah Séné. Sarah Séné, qui est, mon Dieu, elle a tout un CV, mais on pourrait dire réalisatrice, photographe, productrice, peut-être d'autres aussi. Artiste multidisciplinaire, peut-être? Allô, Sarah?
Salut, Julie.
Donc, quel le titre? Parce que je lisais, puis là, je ne savais plus.
Oui, ouais, je comprends. Moi, je me définis comme photographe et cinéaste.
Ah! D'accord, OK. Mais tu es aussi réalisatrice.
Oui, c'est ça, cinéaste. En fait, je réalise, je fais l'image aussi de mes films. Je fais beaucoup de choses dans mes films.
OK, c'est ça. Là, en fait, il y a plusieurs projets qu'on va pouvoir parler. Évidemment, le premier, c'est ton dernier bébé, le court-métrage Orbit qui va être dans les festivals. Il commence, en fait, au mois de mars, donc fin mars.
Exactement.
On est là, on est dans le temps, C'est quel festival de...
Oui, c'est le Festival Regard qui fait sa première mondiale.
Au Saguenay.
Au Saguenay, fin mars, le 20 mars, exactement.
C'est ça. Ouais. Et là, à ce moment-là, parce qu'on le sait, le film, souvent, il commence par les festivals pour, après ça, éventuellement, être diffusé.
Bien, en fait, sa diffusion... C'est essentiellement les festivals de cinéma.
Ouais.
Ça se peut qu'à un moment donné, il y ait des diffusions autres dans des bibliothèques, par exemple, oui. Tu vois, peut-être, je ne sais pas, dans des écoles, mais ça, c'est souvent secondaire.
Mm-hmm.
Mais pendant 2 ans, ça va être essentiellement oui. les festivals de cinéma.
Et comme c'est un court-métrage, ben c'est pour ça aussi qu'on a moins de court-métrages ouais. au cinéma.
Hein? Exactement.
Mais par contre, des court-métrages, des fois, qu'ils vont se ramasser au Rendez-vous Québec Cinéma. Et après ça, éventuellement, ils peuvent aller à un gala aussi. Ils peuvent être ouais. sélectionnés, Cannes. Bref, ça ouais. peut aller quand même très loin. Orbite. Puis c'est vraiment drôle parce que, ben justement, avec mon invité juste avant, qu'on parlait de l'amputation de l'œil, moi, j'arrêtais pas de dire ça, tu sais, que t'as un orbite, finalement, c'est un œil, là. Donc, je m'étais fait enlever mon orbite, là, tu sais. Il y avait comme quelque chose que pour moi, c'était très significatif. Mais Orbite, là, on parle d'un film court-métrage, je vais dire pas la comédienne, mais...
La protagoniste.
La protagoniste ouais. principale, c'est Marie-Christine Ricciolo, qu'on connaît, on l'a vu là, à plein d'endroits différents, elle a raconté son histoire, tout ça. Mais moi, je voulais savoir là, d'où est venue l'idée de faire un court-métrage avec Marie-Christine et en fait, d'où est venue l'idée de parler d'handicap visuel alors que tu n'en as pas.
Oui, tout à fait. Déjà, c'est un court-métrage documentaire. Donc, c'est vraiment oui. pas de la fiction. C'est vraiment, je filme le réel. Moi, je travaille toujours à partir du réel.
Mm-hmm.
Je photographie aussi le réel. Mais la différence avec une captation vidéo, c'est que moi, je mets en scène le réel, en fait. Donc, j'utilise okay. beaucoup de costumes, de lumière. Je m'amuse, en fait. Je m'amuse avec les personnes, en fait. C'est vraiment une collaboration.
Mm-hmm.
Donc, comment c'est venu cette idée de faire un projet avec Marie-Christine? C'est que moi, déjà, depuis bientôt 10 ans, je travaille beaucoup autour des handicaps. Donc, je collabore beaucoup avec des personnes en situation de handicap divers et variés.
Oui. Okay.
Moi, je suis quand même très au fait de beaucoup de choses concernant les handicaps,
mm-hmm.
puisque j'ai vécu toute ma vie avec une maman déjà en situation de handicap. Et puis moi, j'ai des handicaps invisibles.
Mm.
Donc, je connais la question du regard social sur les personnes porteuses de handicap. Et
oui.
puis, je pense que depuis très jeune, j'ai jamais vraiment... J'ai toujours eu un regard critique, justement, sur les représentations des personnes ayant des handicaps. En fait, ça m'a souvent posé problème.
Qu'est-ce que tu veux dire, un regard critique? Parce que moi-même, comme j'ai un handicap, des fois, je me rends compte que je juge ce que l'handicap a l'air.
Ben non, c'est que non? dans les représentations... En fait, ce que je veux dire, c'est que dans les représentations, donc que ce soit dans le cinéma, justement, dans les photographies, dans les articles de journaux, ça c'est, voilà, dans les informations, tout
oui.
ça, le handicap des personnes, les personnes en tout cas, sont toujours représentées un peu de la même manière, c'est-à-dire toujours à travers des prismes qui sont soit misérabilistes,
oui,
soit...
Mais c'est ça, c'est ce côté-là,
ouais.
souvent un peu pas beau, fait
ouais,
pitié,
ouais.
Mal habillé. Tu sais, on dirait ils mettent tout le temps comme ça. C'est justement, quand tu as un handicap, tu es une
sous-catégorie.
Oui, donc, pour ça, je dis que je me suis souvent retrouvée à juger parce que je fais « Arc, c'est
oui.
pas beau, ça!
Oui. »
Mais dans le fond, c'est parce que c'est pas la vraie représentation. Ben,
non.
Ça peut être ça.
Ben, non, je pense que c'est qu'on on baigne, en fait, dans ces
oui.
représentations. Donc, malheureusement, le handicap, il est de toute façon... je dis le handicap au sens large, alors qu'il n'y a pas un seul type de handicap,
mm-hmm.
évidemment. Mais... il est de toute façon perçu comme négatif puisque
oui.
les représentations sont quasiment toujours soit misérabilistes,
oui.
soit, je ne sais pas, un truc d'inspiration un peu pour les personnes valides,
oui.
Les leçons de vie, etc.
Mm-hmm.
C'est
mm-hmm.
vraiment gossant.
Oui, absolument.
tu en sais quelque
oui.
chose.
Oui, oui, oui.
Donc voilà, je pense que j'ai eu à cœur dans mon travail au bout de quelques années parce que maintenant, ça fait... Ça fait quoi? Ça fait 15 ans que vraiment c'est mon métier, c'est devenu
mm-hmm.
mon métier d'être artiste. Depuis une dizaine d'années, ouais, ça fait 9 ans en fait. Ça fait 9 ans exactement, parce que ça fait 9 ans que je suis arrivée au Québec. Puis c'est au Québec que je me suis donné la liberté
mm-hmm.
d'aller poser un regard à moi et surtout collaborer avec des personnes qui allaient me faire confiance pour qu'on travaille sur une nouvelle représentation de leur personne. Alors, c'est des personnes en particulier, mais je pense que ça a un impact au sens large
mm-hmm.
aussi.
Mais dans le fond, c'est d'aller représenter finalement la réalité.
Oui, je pense
Tu sais, en fait, c'est un peu ça, c'est de dire, on va pas non plus magnifier l'handicap pour dire, oh wow, hey, tout d'un coup, c'est rendu glamour, là, tu sais.
Ah ouais, non.
Mais... C'est ça, c'est vraiment d'y aller avec la réalité.
Oui, mais en fait, j'ai envie d'aller chercher de la justesse.
Mm-hmm.
Et puis, je pense aussi... C'est pour ça que j'aime bien parler de collaboration avec les personnes. Oui. J'essaye, en tout cas, quand je fais des projets, par exemple, le dernier en date, Orbite, avec Marie-Christine, on est dans une relation horizontale. Même si c'est moi qui pose un regard sur elle avec ma caméra, elle est au courant de tout, je discute de tout avec elle, elle me propose des choses.
Oui.
Et puis, son regard, justement, compte énormément. Mmh. Donc, et même, il est primordial. Hein. Il est même peut-être primordial avant le mien. Donc c'est réfléchir ensemble, c'est remettre en question aussi mes propres pensées. Enfin, je pense qu'on n'a jamais terminé en fait, sinon c'est pas bon en fait en tant qu'artiste si on n'est pas dans la recherche.
Ouais.
Donc depuis mon premier projet qui s'appelle Fovea, qui est une série de photos que j'ai commencé en 2017 et qui a terminé en 2019, c'est justement un projet à propos des adolescents et adolescentes malvoyants et aveugles au Québec. Donc, j'ai rencontré quand même une vingtaine de personnes sur 2 ans, donc des jeunes, essentiellement ados, jeunes adultes.
Oui.
Et puis, de parcours très différents. Et puis, j'adore cette série. C'est des portraits en noir et blanc, en argentique, parce que c'est ça aussi la spécificité de mon travail. C'est que je travaille juste en...
En noir et blanc?
Ben non, pas en noir et blanc, mais avec des médiums analogiques argentiques, des vieilles caméras, en pellicule. Oui. Je travaille sur la pellicule.
OK.
Il y a un rapport très physique. Et puis,
on
n'est
pas avec le gros HD qu'on a maintenant, là.
Non, moi, j'aime les imperfections, le grain. Tu sais, dans une photo, en fait, dans une photo argentique, la photo, elle est composée de cellules, alors que la photo numérique, elle est composée de pixels.
Oui,
et pour moi, les cellules, c'est vivant.
Mm.
Alors que les pixels, pour moi, dans mon rapport à l'image, en tout cas personnelle, il y a une froideur qui me déplaît.
Oui.
Alors que justement, comme moi, je travaille beaucoup avec l'humain. C'est l'humain que je veux révéler. C'est quelque chose qui est chaleureux, qui est dans le contact. Et puis la photo argentique, elle me permet ça. Puis en plus, quand je fais mes photos ou mes films aussi, je ne vois pas l'image. Il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran qui montre ce que j'ai filmé. Donc, ça se peut que j'ai fait des photos ou que j'ai filmé, puis qu'il n'y ait rien au final, parce qu'il y a un bug quelconque sur la pellicule, sur la caméra que j'utilise.
Mais ça veut dire que, dans le fond, tu plonges dans cet univers-là aussi, parce que si tout d'un coup, tu photographies des jeunes qui ont un handicap visuel, qui ne voient pas, qui sont malvoyants, peu importe, mais là, c'est comme si là, toi, tout d'un coup, tu te dis, OK, parfait, mais je vais aller aussi dans cet univers-là où est-ce que, ben moi non plus, je vais pas voir tu sais, comme ce qu'on veut tout le temps, l'espèce de résultat de la perfection, le Photoshop. Là, toi, tu vas complètement dans l'univers de la personne.
Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a quelque chose symboliquement intéressant aussi, c'est que qui va dans le sens de ce que tu viens de dire, c'est que moi, avant de voir mes images, je les touche parce que je développe mes pellicules dans une chambre noire. Donc, je suis dans le noir total.
Comme à l'époque, là.
Ouais. Ah, moi, à l'époque, du coup, ça a toujours été ça.
Non, mais c'est
oui,
ça.
Oui, j'aime ça quand tu dis ça.
Ben oui, que maintenant, il y a moins les chambres noires. Mais en plus, c'est ça, chambre noire, ça le dit, on est dans la noirceur et on voit l'image.
Ben pour le développement de la pellicule en lui-même, moi, je travaille vraiment dans le noir total. Il n'y a pas de lumière rouge ou quoi que ce soit.
Okay.
C'est pour le tirage papier, ce que je ne fais plus maintenant. Je fais vraiment juste du développement. Puis après, je numérise ma pellicule avec un scanner spécialisé. Mais donc, je touche mes images que j'ai faites avant de les voir. Et ça, tu vois, c'est intéressant aussi parce que je crois que ça décrit bien mon rapport qui est très sensoriel à l'image.
Ah,
Qui est vraiment... qui est très... C'est ça, très tactile.
Mm-hmm.
Et qui va dans le sens de mes projets, je crois.
Mais en fait, moi, je trouve ça vraiment fascinant parce que, tu sais, là, tu te retrouves que tu prends des images, t'as pas vu de quoi ils ont l'air. Finalement, tu les touches, tu ressens quelque chose, mais t'as même pas encore vu si l'image, ça fonctionne ou pas. Tu sais, comme un peu pour le, je vais dire, le commun des mortels, tu sais, qui dirait « Ah oui, c'est beau » ou « C'est pas beau ». Toi, c'est comme si le fait que tu y touches, tu le ressens, à ce moment-là, c'est comme « C'est correct ».
Oui, faut le faire avec l'accident aussi, avec le hasard des choses. Je pense que c'est une pratique de l'image, une pratique artistique qui va contre l'efficacité,
absolument,
contre la vitesse. Moi, je m'inscris beaucoup dans la lenteur. Mm-hmm. Ça va aussi avec mon processus. Et puis, comme je te disais, moi, j'ai quelques handicaps invisibles. Et notamment, j'ai des douleurs chroniques. Mm-hmm. Je vis avec des douleurs chroniques depuis très longtemps. Et donc, je travaille dans la lenteur aussi de par ce fait-là.
OK.
Donc, ça s'imbrique tout ça, finalement. Oui. Ça fait sens.
Ouais. Ah, c'est ça. Mais à ce moment-là, c'est comme si... Toi-même, t'as des défis physiques, mais à quel moment, tout d'un coup, dans tous les handicaps que tu dis que t'as œuvré, là, que t'avais comme une sensibilisation, mais que spécifiquement l'handicap visuel, parce que là, dans le fond, t'as le projet Orbit qui est en lien avec l'handicap visuel spécifiquement. Ton projet photo, même chose, c'était avec des jeunes qui ont un handicap visuel. Il y a aussi une exposition que t'avais fait que tu voulais absolument qu'elle soit accessible pour le public qui a un handicap visuel. De où, tout d'un coup, c'est arrivé dans ta vie là, de dire, ah oui, moi spécifiquement, l'handicap visuel, il y a quelque chose que je veux aller explorer.
Ouais. Eh bien, je pense que c'est vraiment grâce à une expérience professionnelle que j'ai eue au tout début de mon arrivée à Montréal. J'ai travaillé pour une OBNL qui s'appelle Montréal Relève et qui offrait des stages à des adolescents, à des jeunes du secondaire, des stages professionnels pour voir un peu de quoi ils avaient envie, dans quoi ils avaient envie de travailler plus tard. Il y avait une section spéciale pour les jeunes avec des handicaps visuels. Et en fait, ça s'appelle Mission... Ah, j'ai oublié le terme, ça fait quelques années. Okay. Mais en tout cas, c'est un programme spécial de Montréal Relève. Et puis moi, j'avais un contrat photo au début, tu sais, j'avais des petits jobs de photo comme ça, quand je suis arrivée. Puis j'ai dû assister à une réunion avec ces jeunes, puis faire quelques photos de la réunion. Puis tous ces jeunes qui avaient, je sais pas, 15, 17 ans, ils parlaient de leurs envies professionnelles. Mmh. Et puis, en fait, j'ai pris une grosse claque, comme je dis souvent, parce que... symbolique, hein?
Oui, non, mais je comprends où tu t'en vas, là.
Parce que j'aurais eu une idée très limitée de ce que pouvait faire un jeune avec un handicap visuel, en fait. Alors que là, il n'y avait aucune limite. Il y avait des jeunes qui avaient envie de devenir sportif, professionnel. Ouais. Une jeune fille qui voulait travailler dans l'équitation. Enfin, il y avait beaucoup de choses, journaliste. Ouais. Et il y avait un infini des possibilités qui m'a énormément touchée. Puis je pense que j'ai eu une espèce d'épiphanie à ce moment-là où je me suis dit, j'ai envie de faire un projet artistique autour de jeunes avec un handicap visuel pour justement qu'on arrête nos conneries de penser que, mon Dieu, les pauvres jeunes qui n'ont pas d'avenir. Non, ils ont un avenir grandiose aussi, avec autant de portes qu'un autre. Alors, ils vont avoir des défis.
Ben, en
comme
fait,
on en a tous et toutes, mais différents.
Oui, mais c'est ça. Mais en fait, c'est de dire que quand ils sont jeunes, ils ont les envies, ils ont les rêves. T'sais, tout est là. C'est comme si tout est possible. Mais c'est vrai, par contre, qu'après ça, ils se ramassent qui ont des portes dans le front. Là. C'est la société qui fait ça.
Exactement.
Mais l'intention du début, là, l'espèce d'énergie de vie, là, de force de vie, de dire hey, « oui, moi, je vais faire de l'équitation, puis c'est pas grave, je vais trouver une façon d'en faire. » Mais ça se peut qu'après ça, de l'autre bord, on dise « ben non, tu peux pas faire de l'éducation, tu peux pas faire de l'équitation. » Et là, c'est les adultes qui vont refléter ça. Là, après ça, ça prend beaucoup de courage puis de force pour la personne elle-même, parce que malheureusement, soit que ça détruit son rêve, ou bien elle dit, ben moi, je vais la défoncer, la porte.
Oui, oui, tout à fait.
Donc, je pense que c'est ça qui est beau, c'est dire qu'à la base, ces enfants-là ne manquent pas de rêve.
Oui,
tout à fait. Tout est possible.
Oui, je crois que c'est cette fraîcheur-là, effectivement, et puis le rêve, en fait, les rêves qu'ils peuvent avoir qui m'ont vraiment portée. Et puis d'aller à leur rencontre, parce que j'ai aussi beaucoup réalisé que tu dois le savoir bien mieux que moi, mais je pense que les gens ferment les yeux, la société ferme les yeux, et notamment par rapport aux personnes qui ont un handicap visuel. Mm-hmm. Je t'entendais parler tout à l'heure du visage quand j'attendais pendant ta précédente entrevue, et j'ai l'impression quand même que les personnes qui sont peu en contact avec des personnes ayant un handicap en général, mais surtout un handicap visuel. Oui. Il y a une frilosité, on ne veut pas voir, on ne veut pas être en contact, on ne sait pas quoi faire. Tu vois, et en fait, moi, mon envie, c'était de montrer les visages d'une jeunesse, justement, qu'on ne veut pas voir. Donc, sans lunettes fumées, sans canne blanche, tu vois, de pas être dans des stéréotypes. Et puis, de décider avec eux où ils allaient être photographiés. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de douceur dans les portraits. On est dans les visages, dans des lumières. Voilà. Et puis, l'exposition, déjà, à ce moment-là, elle a été accompagnée de descriptions d'images sous forme de poèmes que j'ai écrits, qui étaient pour l'exposition disponibles en braille uniquement.
Waouh!
Et alors, c'est pour ça que je te dis que ma recherche la pousse toujours et je vise à mieux faire, puisque je sais bien que le braille n'est pas accessible à toutes les personnes ayant un handicap visuel.
Ce serait
trop beau. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que, évidemment, il y a 98% de personnes qui sont venues à cette exposition
qui voient, qui
ne savent pas lire le braille.
Mais
c'était intéressant qu'on me dise au vernissage, mais Sarah, moi j'aimerais savoir ce qu'il y a écrit dans ces descriptions sous forme de poème. Je veux lire.
Oui.
J'ai dit, ben non, j'ai volontairement pas retranscrit ce qu'il y a écrit parce que vous êtes là dans la posture pendant une minute ou deux, c'est tout dans
c'est
votre
tout.
Vie.
C'est ça.
Mais de ne pas avoir accès à quelque chose, et notamment dans le milieu de l'art. Voilà.
Oui.
Parce que le milieu de l'art, il est très, 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 très rarement accessible aux personnes ayant un handicap visuel ou même d'autres types de handicap.
Oui. Et en fait, c'est ça que je trouve qui est intéressant au niveau du... Vraiment, je trouve typiquement l'handicap visuel, il y a vraiment quelque chose qui est associé aux yeux.
Oui.
Parce que l'handicap visuel, quand tu ne vois plus tes yeux, là... Tu sais, dans le sens que t'as plus le focus, t'as plus... Fait que des fois, ben c'est ça, t'as la personne que tu vois qu'elle a les yeux, on dirait, révulsés par en haut. Là, tout d'un coup, elle a un œil qui est dans le coin, là, qui est complètement... qui louche, qui... Puis souvent, ça, c'est associé à... Wesh, c'est pas beau. Parce qu'on est habitué, des yeux, on se regarde dans les yeux, et là, ah, il se passe quelque chose. Puis là, c'est comme si tout d'un coup, si t'as plus tes yeux... t'as comme plus accès à l'autre personne. Fait que je trouve qu'au niveau de la société, il y a vraiment un préjugé supplémentaire par rapport à l'handicap visuel, de par ce regard-là dans les yeux qui est plus présent, pas de la même façon.
Tout à fait.
Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont porter des lunettes de soleil. Marie-Christine en est une qui porte, je pense, moi, 99 % du temps que je la vois, elle a des lunettes de soleil. Quand elle prend des photos, elle a ses lunettes de soleil. Parce qu'il y a ça, elle aussi, tu sais, elle sait que ses yeux, ils vont plus aux mêmes places.
Oui, oui. Puis il y a cette peur du jugement, parce qu'on l'associe à un imaginaire, par exemple, de la sorcière. Enfin, combien de fois j'ai entendu ça?
Oui.
Comme Marie-Christine a les yeux très pâles, par exemple, qui n'a plus de pupilles, des choses comme ça.
Oui.
Et puis, tu vois, justement, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, parce que déjà, pour l'anecdote, Marie-Christine, elle a enlevé ses lunettes la plupart du temps pour le tournage de mon film Orbite. Et ça, c'est un cadeau qu'elle m'a fait.
Mon Dieu, tellement.
Et je pense que ça témoigne de la confiance qu'on a eue l'une envers l'autre, justement.
Oui, parce que ses yeux sont magnifiques.
Tout à fait. Elle est magnifique.
Elle est magnifique.
Elle est magnifique aussi.
Mais ses yeux sont magnifiques.
Ses yeux font partie de son visage, de sa personne.
Ben oui.
Et c'est un vrai cadeau qu'elle m'a fait, parce que je sais qu'elle le fait rarement.
Très.
Mais tu vois, pour raconter aussi une anecdote de mon expo Fovea, justement, mon projet sur les jeunes aveugles et malvoyants. J'avais une expo à Victoriaville il y a quelques années, puis le soir du vernissage, il y a une dame qui est venue avec sa petite fille de peut-être 7 ans. Et donc moi, c'était des très, très grandes photos, des très grandes impressions immenses, tu vois, qui faisaient presque la taille d'un mur, des portraits très forts en noir et blanc avec beaucoup de grain, beaucoup de prestance comme ça, puis ces visages qui sont si beaux.
Ouais.
Et puis il y a le portrait d'une jeune femme, Camille, que j'aime beaucoup et qui donc était en pleine lumière, donc les yeux blancs, magnifiques. Et puis cette femme, elle est venue me dire « Bon, je voulais venir à l'expo avec ma fille, mais je me dis que c'est peut-être une mauvaise idée parce que là, en fait, ma fille, elle a eu peur des yeux blancs. Elle dit que ça fait des yeux de sorcière ou des yeux de dragon. »
Ben oui.
Et en fait, bon, ça m'a vraiment énervée. J'ai ressenti un petit truc dans le ventre.
Oui.
Mais je lui ai dit, voyez, justement, c'est pour ça qu'il faut faire des expos comme ça. Puis c'est pour ça que vous faites bien d'emmener votre fille, parce que c'est le manque de représentation autre que dans l'imaginaire. Je sais pas quoi, de sorcière fantastique ou qui associe à quelque chose de négatif, en fait.
Mais oui.
C'est pas ça la réalité. C'est pas ça la vraie vie d'une personne avec un handicap visuel. C'est pas de vivre H24 avec des lunettes fumées. En fait, les lunettes fumées sont là pour ne pas avoir ce genre
de
jugement.
C'est ça. Parce que dans le quotidien, Marie-Christine ne les porte pas, ses lunettes, là, toute seule là, chez elle. Mais moi, ma carte d'assurance maladie, quand j'ai dû la prendre, on m'avait enlevé mon œil et j'avais pas encore de prothèse oculaire, donc c'était un œil rose. Et sur ma photo que je dois garder jusqu'en 2030, c'est moi avec un œil normal, mon œil brun et un œil blanc.
Oui.
Et chaque fois que je sors ma carte, chaque fois, moi-même, là, je le fais, là, chaque fois que je sors ma carte, j'ai tout le temps comme un petit « Ah, oh, mon Dieu, c'est vrai, hein?
» Même toi vis-à-vis de toi-même,
oui, ça te surprend. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas d'œil, hein? c'est spécial, mais c'est qu'on le voit pas. C'est comme si c'est vraiment, c'est blanc.
Oui.
Et chaque fois que je la donne à quelqu'un, je me justifie, je m'excuse. « Ah oui, je sais, j'avais pas de prothèse à ce moment-là, mais là, j'en ai une maintenant, mais je suis pris avec ma carte de, jusqu'en 2030. Oui. » Tout le temps. J'ai tout le temps ce réflexe-là. Mais je le fais pas pour moi. Tu sais, dans le sens... Je veux dire, oui, pour moi, dans le sens que j'ai un choc moi-même à chaque fois un peu. Mais après ça, je pourrais le vivre tout seul. Là, ça gère bien. Parce que je sais que c'est plus moi. C'était moi. Bon. Mais là, c'est parce que là, je la donne à quelqu'un. Fait que là, je veux pas traumatiser la petite madame à Post-Canada. Que j'ai récupéré un paquet.
Ouais.
Tu comprends?
Oui, je comprends tout à fait.
Alors, je comprends la réflexion de la maman de dire, oh mon Dieu, ma fille. Mais de l'autre bord, moi, ce serait le contraire. Ce serait, ben non, on va aller voir ça. Ça va amener une sensibilisation. Mais en même temps, de faire, ah ouais, hein, des yeux blancs. On voit pas ça souvent, hein?
Ben justement, on a à cœur qu'on voit ça plus souvent.
Ben,
c'est ce que j'essaie de faire.
Mais c'est ça. Mais c'est ça que je t'ai dit. C'est vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose d'associé vraiment au niveau de... Tu sais, physiquement, vu que c'est au niveau de la, tu sais, du visage, et que tu ne peux pas faire abstraction. Tu sais, tu es en train de parler à quelqu'un et la personne, tout d'un coup, elle regarde à droite, à gauche, en bas, en haut. C'est comme ça brise la relation. Tu sais, d'emblée, c'est comme si... Ben, je peux pas avoir une relation si la personne ne me regarde pas.
Oui, oui, dans la communication.
Dans la
communication. Parce que le eye contact est si présent habituellement.
Mais oui, parce qu'on a associé ça vraiment au niveau des yeux. Fait que je trouve ça vraiment magnifique ce que tu fais parce que quand tu fais l'exposition, ben t'amènes ça complètement à un autre niveau. Et quand tu fais le documentaire, le court-métrage avec Marie-Christine, ben la même chose. C'est que là, ben c'est Marie-Christine à travers, finalement, on plonge dans son univers où est-ce qu'elle a... Et c'est très poétique, hein? Donc, c'est vraiment pas comme « Bonjour, je m'appelle Marie-Christine », parce qu'un documentaire, des fois, c'est ça, hein?
Oui, oui.
Et là, elle raconte, là, tu sais, j'ai perdu la vue, j'avais 30 ans, et là. Non, c'est pas ça.
Là-dedans.
C'est on plonge vraiment dans son univers...
Oui, puis je crois que j'ai voulu créer une bulle. En fait, c'est ça que j'ai toujours dit à Marie-Christine. Et puis, j'ai réalisé le film aussi en collaboration avec une musicienne qui s'appelle Sarah Pagé, qui est une grande collaboratrice de Lassa Dessella, par exemple, qui a fait un travail magnifique à la harpe pour notre film, donc à la harpe électronique. Donc, c'est tout un environnement sonore qui fait qu'on est dans la bulle de Marie-Christine. Puis, il y avait aussi un concepteur sonore avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Andrés Solís Barrios, à qui j'ai demandé de créer des sons caressants. Et notamment, il a beaucoup travaillé avec des sons de l'espace. Alors, il n'est pas allé les capter, hein. Il a travaillé avec plein de choses dont il dispose numériquement, justement.
Ouais.
Mais parce que je voulais qu'on soit dans quelque chose d'ambiant. Donc, ma pratique, elle s'inscrit dans le documentaire expérimental. Donc, c'est vraiment pas du documentaire classique télé. Je compose un peu des tableaux avec Marie-Christine qui porte justement des costumes, on utilise des lumières, on s'amuse. En fait, moi, je pense qu'avec les personnes avec qui je collabore pour mes projets, je m'amuse comme quand j'étais petite et que je faisais des choses avec mes poupées, mes Playmobil, mes Polly Pocket, tu vois, où j'adorais mettre en scène. Puis on s'amuse beaucoup. Il y a cette légèreté, il y a cette complicité aussi, je pense. Puis, c'est ça que j'ai voulu faire, qu'on ressente en fait aussi sa mémoire sensorielle. Ça, c'est vraiment le fil conducteur que j'ai voulu avoir dans le film. Donc, c'est pas un film à propos du handicap qui parle de la cécité.
Non.
C'est vraiment, je fais appel à des... On parle de la lune, justement, on parle du soleil. Enfin, je dis « on », mais c'est surtout elle.
Oui,
j'apparais vocalement quelquefois. Il y a son fils qui apparaît aussi dans le film, son amoureux. Mmh. Et puis il y a toujours l'univers du cosmos qui revient, oui. en fait. D'où le titre du film Orbite au pluriel. Mmh. Puis son amoureux, puis son fils qui tournent en orbite autour d'elle. Mmh. Puis en même temps, tu as cette idée, comme tu le disais au début, de l'orbite de l'œil.
Voilà. C'est ça, exactement. Et en fait, là, ton film, comme tu dis, il va être à partir du 20 mars au festival Regard ouais. à Saguenay. C'est peut-être pas tout le monde qui va aller à Saguenay en ce moment, mais exemple, là, est-ce que là, tu as déjà une suite ou c'est rendu au film? Au festival, tu vas pouvoir savoir s'il y a une suite ou comment ça va marcher.
Le festival, il est en ce qu'on appelle en distribution, en phase de distribution. Donc là, ça veut dire que ça fait seulement quelques semaines qu'il est rentré en distribution chez Vidéographe, qui est mon distributeur attitré pour mes films. Puis là, il va tourner des festivals internationaux, tu sais, on l'espère, comme mes autres films ont fait. Puis au Québec, alors c'est ça la difficulté, parce qu'il y a plein de gens qui me demandent pour le voir à Montréal, mais il faut savoir, ça n'a rien à voir avec notre sujet d'aujourd'hui, mais que quand il y a une première dans un festival, au Festival Regard par exemple, eh bien à Montréal, ce n'est pas possible qu'il passe par exemple au Festival des RIDM, Festival de documentaires, parce que les RIDM exigent une première montréalaise, première québécoise, je veux dire. Elle est, voilà.
Sarah, c'est sur ton site internet, Sarah Séné ou Orbite qu'on trouve les informations.
Les infos, oui.
Parfait. Ben, merci beaucoup, Sarah. Ça a été un grand plaisir.
Ça a été vite, hein?
Je remercie mes invités, Stéphanie Morin-Robert et Sarah Séné. Merci, Mathieu Tessier, à la mise en onde. Et nous, on se retrouve pour une autre prochaine émission. Bye-bye, tout le monde.